La semaine dernière, nous avons débuté une série de trois messages qui s'intitule « Prière » avec Pasteur Emmanuel. Dimanche prochain, donc, c'est notre conclusion. Et c'est Pasteur Michael qui va nous apporter la conclusion de notre série « Prière ». Alors, pas de surprise, ce matin, c'est moi. Et ce matin, je vais aborder un sujet de prière qui n'est pas souvent abordé, je trouve. Parce qu'on va être honnête, il y a une coupe de patates chaudes dans la Bible. On préfère les mettre de côté, on ne veut pas en parler. Ça nous met mal à l'aise, ça nous confronte par rapport à nos convictions, on ne sait pas trop quoi répondre. Puis là, on vit à l'ère de Google, qui est, selon moi, un des pires ennemis de l'Église, de la foi et de Dieu, c'est Google, présentement. Parce que ça nous prend une réponse. Moi, il y a une chose que j'ai arrêté de faire dans ma vie, c'est que, tu sais, quand tu te mets à pas filer, tu as des symptômes, plein des affaires, que, ouais, j'ai jamais eu ça avant. Fait que là, tu Googles ça. Ça finit toujours, il te reste 4 jours à mourir. Présentement, je pense que selon Google, je suis déjà mort 12 fois dans ma vie. Mais je suis encore là. Et on veut une réponse. Et avec Dieu, c'est la même chose, on veut une réponse. Et quand on parle de prière, ça nous prend une réponse. Des messages, j'en ai entendu sur la prière dans ma vie, je ne sais pas combien. Des livres sur la prière, j'en ai lu, je ne sais pas combien. Mais il y a un genre de redondance où on va toujours dans la facilité, où on va toujours dans justement, hey, oui, mais si tu pries vraiment, là, si tu pries de telle façon, si tu pries plus fort, si tu cries, Dieu va t'entendre, et là, Dieu va répondre, et là, c'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu tout puissant, puis là, il faut qu'il y ait une réponse, puis Dieu, puis là, si ça, ben, prie encore si ça n'arrive pas. Mais il faut tout le temps qu'il y ait une réponse, il faut tout le temps qu'il y ait un miracle, il faut tout le temps qu'il y ait une bénédiction, il faut tout le temps que ça soit, on aime ça quand ça finit comme un film de Walt Disney. Qu'on le veuille ou non. Mais quand on est honnête et on regarde la Bible, c'est pas vraiment ça qui se passe. Et moi, quand tu pars avec un livre qui dit « Voici les 7 clés de la prière », OK, toi, grand champion, tu as « Unlock les mystères de Dieu ». C'est à toi que Dieu parle. Quand tu pars avec 7 clés de la prière, pour moi, là, Dieu, c'est quoi dans notre vie? Je veux juste vous dire, moi, la façon que je vois le plan de Dieu pour notre vie, c'est un jeu de serpent-échelle. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, je vois votre réaction. C'est évident. Mais pour moi, je le vois de même. Pourquoi? Parce que là, des fois, on a des avancées avec Dieu. Puis là, hey, un échelle. Tu sais, quand tu joues, on a tous joué un serpent échelle, oui, non, oui. Sinon, mettez-vous là-dessus l'après-midi. C'est quand même le fun, même si ça demande pas beaucoup de concentration. Ça te fait oublier les problèmes de la vie. Je joue pas à jour de paye. Ça, c'est stressant. Mais. Et là, tu as des avancées. Là, quand tu prends une échelle, tu es comme, all right, là, j'avance avec Dieu. Mais malheureusement, dans la vie, bien, on trébuche, on fait des erreurs, ou même, il y a quelque chose qui nous confronte par rapport à notre foi, puis on pogne un serpent, puis là, Dieu nous ramène plus loin, parce qu'il dit, bien, tu pensais que tu étais bon, que tu avais compris. Mais pour moi, les gens qui partent avec 5 ou 7 clés de la prière, ils ont pogné un serpent. Dieu va les ramener. Parce que tu ne peux pas arriver à un point de comprendre pleinement la prière. De dire, j'ai compris, je sais comment ça fonctionne, je suis désolé. Si tu dis ça, tu n'as pas assez prié dans ta vie. Continue. Et pour moi, les 7 clés ou les 5 clés, c'est un peu la même chose que les gens qui fabriquent de la nourriture pour chat sur les cannes et font comme version améliorée. Sérieusement, toi, tu penses que je vais prendre ça, je vais faire comme, hey, mon chat va capoter. Ils vont me remercier éternellement. Ils font pas de focus group avec des chats pour dire, OK, Misty, toi, t'en penses quoi? Non. C'est du monde qui font comme ça, puis après ça, pour le brander encore plus, parce qu'ils n'en vendent pas assez, ils mettent de quoi par-dessus l'étiquette? Fait que pour moi, c'est la même chose. C'est des gens qui, t'es pas un chat, tu peux pas savoir si la bouffe est bonne. Même si tu en manges, puis tu fais, moi, j'aime ça. Ça se peut. Mais tu ne le dis pas à moi. Les gens qui arrivent avec toutes les réponses toutes faites, des 5 clés, des 7 clés, pour moi, c'est la même chose. Tu essaies de brander quelque chose, mais tu n'as pas compris ce que c'est parce que tu n'es pas Dieu. Et aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est quand Dieu ne répond pas à la prière. Ouh. Quand Dieu ne répond pas. Parce que oui, ça arrive. Puis quand ça arrive, on ne veut pas trop en parler parce que c'est malaisant. Et quand tu en parles à quelqu'un, mais justement, tu essaies tout le temps, il y a tout le temps la bonne personne qui a tous les versets déjà préparés. Il y a son listing de versets pour te dire, ben voici, mettons, ce que tu n'as pas fait, voici, tu sais, ou le classique des classiques. Là. Ça, c'est le passe-partout. Dans n'importe quelle situation, tu sors ce verset-là, tu fais comme, yes, j'ai été spirituel. N'inquiète-toi pas, mon frère, ma sœur. Tu sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, mais réponds pas à ma prière présentement. Je ne veux pas l'entendre, je la connais cette phrase-là. Et on joue souvent dans la facilité. Dans Romains 12, 12, ça dit « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. » Et ça, c'est un des trucs qui revient régulièrement dans les livres. Mais justement, là, prie encore plus, puis persévère dans la prière. Et c'est vrai, c'est un passage. Mais il arrive à un moment donné où tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus le goût, tu n'as plus la force, tu as tout utilisé, puis là, Dieu ne répond pas. Des fois, et des fois, on n'est pas patient parce qu'on vit dans une société de micro-ondes. Fait que pour nous, la prière, c'est cause à effet. Si je prie aujourd'hui, tu as 72 heures pour répondre. Et là, la semaine passe, et là, le mois passe, et des fois, c'est des années. Peut-être que vous avez des prières que vous faites encore, et ça fait des années qu'elles ne sont pas répondues. Hier, j'étais avec des amis, c'est ça, ils m'ont partagé quelque chose qu'ils vivaient, puis ça fait des années qu'ils prient pour quelque chose qui n'arrive pas. Et moi, je n'ai pas de réponse à ça. Parce que moi aussi, j'ai des prières qui ne sont pas répondues. Fait que je fais juste dire, je compatis, et moi, je vais prier pour vous. Mais je n'ai pas de réponse. Et c'est pas vrai que je vais sortir ma grosse Bible Thompson avec toutes les références puis je vais trouver la réponse. La réponse, c'est non. Parce qu'à quelque part, il y a cette dimension-là où on ne pourra jamais atteindre. On ne peut pas arriver à la fin du jeu de serpent à échelle, sauf de l'autre côté. C'est ça le point. Mais dans notre vie terrestre, de dire, je connais Dieu, je sais comment il fonctionne, je sais comment, si tu pries de telle façon, si tu te mets à genoux, tu te mets debout, tu lèves tes mains, tu fais 40 jours de jeûne, que tu fais ça, ça se pourrait que même au bout de tout ça, tu fais un pèlerinage, tu vas dans telle église qui sont plus bénies que toutes les autres, parce que c'est évident que, ça se pourrait qu'au bout de tout ça, ta prière n'est pas plus répondue. Mais en arrière de la prière qui n'est pas répondue, Dieu est toujours Dieu. Dans Matthieu 27, le verset 46, Jésus sur la croix, la dernière parole qu'il a dit. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est la dernière, avant de rendre l'âme, c'est la dernière chose que Jésus a dit. Il s'adresse à son Père. S'il y a quelqu'un qui connaît, tu sais, faire confiance à quelqu'un, là, moi, il n'y a pas grand monde qui va dire, « Moi, je connais Dieu plus que toi. » Ben bravo, je n'ai pas de médaille sur moi, mais je pourrais t'en donner une. Mais, il y a une personne que je fais confiance quand il dit « Je connais mon Père », c'est Jésus. Et connaissant son Père, lui, il arrive sur la croix, et il est pris de détresse et de désarroi, et il est désemparé, il ne sait pas ce qui se passe, ça n'est jamais arrivé dans sa vie, dans toute son éternité en passant. Et là, il fait « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Si Jésus est capable de dire « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Sens-toi pas mal à l'aise de dire à Dieu « Pourquoi tu m'as-tu abandonné? » dans ta prière. Mais on est chill avec ça? Parce que c'est ça. C'est la vérité. Parce qu'il y a un moment où tu peux arriver, où il y a pas, la prière n'est pas répondue, puis tu as le droit de le dire. Pas parce que moi je le dis. Si moi je le disais, tu pourrais me questionner, me challenger. « Ouais, mais toi t'es qui pour dire ça? » Là, c'est Jésus qui le dit. Pour sa propre vie à lui. Il n'y avait pas de réponse. Jésus n'avait pas de réponse. Imagines-tu? Non, non, mais vous êtes encore moi. Là, vous avez arrêté à la canne de nourriture pour animaux, là, le chat, hein, c'est là. Là. Vous avez arrêté à Misty, le focus group, vous êtes encore là. Hein, ouais, c'est vrai, ça? Ça fait du sens? On décroche des chats pour l'instant, s'il vous plaît. Penserez à ça en arrivant chez vous. Faites le test, allez en acheter à l'épicerie, puis goûtez, faites une dégustation, après-midi, si vous voulez, c'est votre affaire. Mais la vérité, puis ça fait partie de ma life. Hein, voyons, ben oui, mais tu sais, on arrive le vendredi saint, puis on le dit comme si, ah oui, Jésus a souffert ça. Mais quand Jésus n'a pas de réponse, ça se pourrait qu'il n'y ait pas de réponse. Même si à quelque part, il connaissait la réponse. Mais là, présentement, Dieu était tellement son Père, était tellement loin, ça dit que Dieu s'est détourné de Jésus parce qu'il portait nos péchés. Il a arrêté de le regarder, puis à ce moment-là, c'est comme, là, on termine, c'était pas ça le deal. Je me retrouve tout seul. Il n'y a plus d'ange, là. Il n'y a personne qui vient à mon secours. Il n'y a pas une armée. Ils étaient tous là. Là, ils sont, il n'y a plus personne. Je suis toute seule. Si Jésus était capable de dire à son père, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais tu as le droit, dans ta prière, de dire, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et Dieu ne sera pas fâché après toi. Il va juste dire, « Je comprends. » Jonathan Martin a dit, « Le désert est le lieu de naissance d'une véritable intimité avec Dieu. » Parce qu'on va se le dire, pour les enfants, c'est facile d'aimer le Père Noël, vrai? Tous les enfants aiment le Père Noël. Pourquoi? Ils savent que si je vais voir le Père Noël, il me donne des cadeaux. C'est dur à pas aimer quelqu'un qui te fait des cadeaux, là. C'est un peu comme le boss que tu t'entends pas rien avec, mais surprise, lundi, demain matin, tu arrives au bureau, il y a augmentation, grosse augmentation. Ouais, là, je vais retirer mes paroles un peu. Je commence à l'aimer, mon boss. Tu sais, il y a des situations où c'est facile à aimer, et Dieu est facile à aimer quand il nous bénit. Dieu est facile à aimer quand il nous guérit. Dieu est facile à aimer quand il fait un miracle dans nos vies. Mais quand on se retrouve dans la position de Jésus où il n'y a plus rien, tu dis, est-ce que tu m'as abandonné? Ben là, c'est facile de décrocher. Puis de faire comme, moi, tu ne me bénis pas. Moi, tu ne réponds pas à ma prière. Fait, pourquoi est-ce que je resterai là? Mais je pense que c'est le moment, ce moment-là, où c'est là que ça se passe. Parce que tu es attaché à Dieu pour la bonne raison. Pas pour ce qu'il t'apporte, mais pour ce qu'il est. Et c'est là que ça se passe. Dans le psaume 39, 3, ça dit, « Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur était vive. » J'aime le livre des psaumes, parce que le livre des psaumes est vrai. C'est des personnes vraies. C'est des gens qui ont vécu quelque chose de similaire à nous, et ils partagent le fond de leurs entrailles, le fond de leur cœur. Et il y a un moment, peut-être, tu as dit, j'ai persévéré, j'ai prié, ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait des années que je prie, puis il ne se passe rien. Mais c'est peut-être le moment d'arrêter de prier. Y a-tu vraiment dit ça? C'est enregistré, je l'ai vraiment dit. Je suis resté muet. Dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur était vive. Je me suis tu. Je n'ai plus rien à dire. Tout a été dit. Je les ai toutes priées. J'ai changé de langue pour prier. Je les ai toutes faites à genoux, debout, jeûner, crier, prier, les mains, tout. Marcher, pas marcher, assis, coucher, toutes les positions. Et ici, ça ne veut pas dire d'arrêter de prier globalement. Mais peut-être pour certaines prières, de dire, « Seigneur, je pense que tu l'as entendu. » Et là, je sais que c'est le moment, après la canne de chat, que vous pouvez décrocher. Dire ça, c'est too much. Je vais vous demander une chose ce matin, suivez-moi jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Partez pas, commencez pas à être en scandale à l'intérieur de vous, aigri, ou suivez-moi jusqu'à la fin. Psaume 39, 8 à 10 dit, « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne m'expose pas aux insultes du fou. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Maintenant, tout ce que je te dis, voici ma prière, voici ma frustration, voici ma colère, Seigneur. Voici ça. Je ne veux pas être au prix avec toute la folie des autres et de ce que je subis. Mais maintenant, je me tais. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je n'ouvre pas la bouche, je reste muet, car c'est toi qui agis. Maintenant, tu le sais, Seigneur. Tu sais combien de fois j'ai prié et dans toutes les façons. Maintenant, c'est à toi d'agir. Je n'ai plus rien à dire. Je ne sais plus quoi dire. Et à la limite, j'arrive au point où je pourrais dire comme Jésus, « Pourquoi tu m'as abandonné? » Tish Harrison Warren a dit, « De s'asseoir en silence est un exercice à tolérer le mystère. » Et comme j'ai dit tout à l'heure, le pire ennemi de la foi aujourd'hui, je pense qu'un des pires ennemis, c'est Google, parce qu'on veut des réponses. Et si tu googles des affaires, tu as des chummies là, qui vont avoir des réponses pour toi. Mais est-ce que c'est la réponse de Dieu? C'est la réponse qui va satisfaire notre petit besoin, notre petite conviction, notre malaise avec le mystère de Dieu. Mais Dieu, lui, demeure un mystère. Et j'aime ça, l'idée de, je vais m'asseoir en silence, je ne dirai rien. Cet exercice-là est de tolérer le mystère de Dieu. et de voir qu'est-ce que Dieu, quand Dieu, et où Dieu, et comment Dieu va agir. Là, ça ne dépend plus de personne, ça ne dépend plus de moi. Il faut qu'il se passe quelque chose, mais je n'ai plus rien à dire sur le sujet. Le psaume 139 dit, « Éternel, tu examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Et c'est là mon point. C'est que même avant, peu importe, il y a des gens qui pensent que si tu pries avec le français de Radio-Canada, Dieu va plus t'entendre. Oh, right. Mais peu importe la qualité de ton français, de ton anglais, de ton espagnol, de ton mandarin, de whatever, Dieu s'en balance. Dieu ne fait pas passer un test de français à chaque fois que tu pries. À ce mot-là, je pense que ce n'était pas vraiment à propos. Tu aurais pu utiliser, voici, je te donne une liste de choix de mots pour la prochaine fois. Parce que, en fait, avant même qu'on prie, Dieu connaît la prière qu'on va faire. Fait que d'arrêter de prier à un moment donné, Dieu sait dans le fond de ton cœur, parce que même si tu ne prononces pas un mot, tes entrailles parlent et Dieu entend tes entrailles. C'est profond, ça. Mais c'est ça que ça dit ici. Tu me connais. Tu m'examines, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Fait que c'est même pas là. C'est à des kilomètres, Dieu sait déjà ce que je pense. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Il n'y a pas de surprise pour Dieu. Tu ne peux pas prendre Dieu par surprise avec ta prière, la façon dont tu vas prier, les mots que tu vas utiliser. Parce que Dieu le sait déjà. Dieu connaît déjà ta situation. Et Dieu connaît ton futur. Et Dieu sait déjà ce qu'il va faire. Il n'est comme pas, « Ouf, cette prière-là, OK, je ne l'avais pas vu venir. » Il y avait comme trois portes. Je pensais qu'elle allait prendre la gauche, la droite, et après celle du milieu. On fait quoi avec ça? Encore une fois, focus group avec les anges. Comment qu'on enligne ça? On va le sortir comment dans cette situation-là? Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu n'est jamais surpris. Dieu sait, Dieu connaît. Aussi frustrant que ça peut être. Oh, nous, petits êtres humains, on est très, très, très cérébral, très, il faut avoir cartésien, il faut avoir des barèmes, il faut avoir un cadre, il faut être capable de chiffrer ça, il faut être capable de comprendre tous les moindres faits et gestes de Dieu. Puis Dieu dit, non, ça ne marche pas comme tu veux. C'est moi le boss, c'est moi le chef, c'est moi qui est là de toute éternité. Toi, tu es là de passage sur la terre. C'est moi. Et aujourd'hui, je ne réponds pas. Et si vous ne comprenez pas, et toutes les phrases de, tu n'es pas assez spirituel, tu n'as pas prié de temps, tu as peut-être un péché, tu as ci, de ça, parlez-en à Job. Quand vous allez le voir au ciel, parlez-en à Job. Comment tu as filé, toi, quand ta maison a passé au feu, les gens que tu aimais sont morts, que tu n'avais plus rien, plus une sainte, tu étais couché à terre, raide, semi-mort, puis tu n'as rien fait. Ça ne dit pas que Job, à la fin du livre, dernier verset, on ne vous l'avait pas dit. Mais Job, voici son péché. C'est la raison pour laquelle il a subi tout ça. Non? Non? C'est pas arrivé. Mais Mr. Eckhart a dit, si la seule prière que vous dites est merci, cela est suffisant. Parce que des fois, c'est la seule prière qu'on peut faire. D'ailleurs, merci. Et des fois, pour Dieu, c'est la seule prière qui est suffisante à entendre. Dans Matthieu 6, les versets 6 à 8, Jésus va dire, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Oui, mais intéressant. « Ne les limitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » vois dans le secret. Tu es tout seul, il n'y a personne qui te voit. Ça dit que ton Père te voit dans le secret. Et même Jésus va dire, même, utilise pas le français de Radio-Canada, s'il vous plaît. Même, utilise pas trop de mots, s'il vous plaît. Parce que, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. C'est fou pareil, là. Là, je sais qu'il n'y a plus son plus d'image. Je vous regarde, là, je suis comme, oh, OK. Parce qu'ils s'imaginent que plus ils vont dire de mots, plus ils vont prier fort, plus ça, ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Encore une fois, c'est pas Pierre-Jean-Jacques, là, c'est Jésus qui dit ça. Sur la prière, Jésus sur la prière nous dit, « Dis pas trop de mots, ça ne donne rien. » Pourquoi? Parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu veut juste que tu viennes puis tu lui exprimes ton besoin, même s'il le connaît, de voir ton intérêt, de voir que tu as une communication avec lui, de lui partager. Mais Dieu le sait déjà. Et de ne pas avoir peur de comment on le fait, de ne pas avoir dit « j'ai manqué des mots ». Non, parce que Dieu entend, Dieu connaît, Dieu sait, et Dieu fera ce qu'il voudra dans son temps. Parce que plus loin, au verset 9 à 14, si vous ne savez plus, vous n'avez plus de mots pour prier puis de faire votre prière, Jésus nous a donné une prière à faire. Et c'est intéressant parce que quand les disciples ont demandé à Jésus de leur « Enseigne-nous comment prier », c'est impressionnant à quel point Jésus n'a pas sorti ses 7 clés. Il ne les a pas enrôlés dans un cours de 24 semaines. Il leur a dit « Voici ». Et ça se résume en 2-3 versets. « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. C'est la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Et nous, on cherche les 7 clés. Quand même intéressant. Peut-être que vous ne trouvez pas ça intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Et ici, Jésus va dire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que quand on n'a plus rien à dire, quand la prière n'est pas répondue, quand on ne sait plus où donner de la tête avec Dieu, mais la seule prière à faire, c'est bien, fais ta volonté. Fais ta volonté. Et ça, c'est pour moi la plus grande prière, parce que c'est une prière d'abandon. Je ne peux plus rien maintenant. Je suis au bout de mes ressources. Soren Kierkegaard a dit « La fonction de la prière n'est pas d'influencer Dieu, mais plutôt de changer la nature de celui qui prie. » Et c'est un peu ça. Et souvent, on a souvent tendance à l'inverse. On pense que quand je vais arriver, je vais impressionner Dieu avec ma prière. Il va tellement être impressionné qu'il va répondre plus rapidement que l'autre à côté. Et là, il y a quelqu'un qui va nous donner une médaille où on va devenir comme un héros de la prière parce que, lui, sa prière est répondue. Mais la nature de la prière, c'est de s'approcher de Dieu pour que Dieu, à travers notre prière, à travers ce qu'on vit, nous change, nous. C'est ça. C'est de nous changer, nous, de changer notre perception de Dieu, d'arriver justement à une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de qui il est et de réaliser qu'au final, même si j'ai fait cette avancée-là, même si j'ai pris une échelle, il demeure encore un mystère. Et c'est pour cette raison-là que j'ai besoin de m'approcher encore de lui. Parce que je ne suis pas arrivé au bout de ma connaissance. Et quand on n'a plus, on ne sait plus quoi prier, on a l'impression qu'on va arrêter de prier. C'est le moment où les croyants autour de nous peuvent jouer un rôle. En Jacques 5,16, ça dit « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Priez les uns pour les autres. Et c'est là où justement, où tu sais, tu n'as plus la capacité, tu n'as plus la force, où tu sais plus quoi prier, puis je vais arrêter de prier. C'est là où tu as besoin de quelques personnes, d'une personne autour de toi et de lui, confesser, de dire, voici ma situation. Je suis plus capable de prier. J'ai l'impression d'être Jésus sur la croix, que Dieu m'a abandonné. Je ne sais plus quoi faire. J'ai plus d'énergie, plus de force pour prier, puis j'ai besoin que Dieu intervienne. Mais c'est là où l'Église entre en jeu. Et c'est là qu'on a besoin de d'autres personnes qui vont prier pour nous. Pour se sentir appuyé dans la prière, pour se dire, OK, il y a quelqu'un qui me porte dans la prière. Colossiens 3:13 dit, supportez-vous les uns les autres. J'ai l'impression que quand on lit ce passage-là, notre compréhension c'est de supporter les uns les autres, on pourrait lire plus comme, endurez-vous les uns les autres. Là, je vois que, là, je vous rejoins, là, hein? Vous avez tout compris, là. C'est un peu comme les enfants qui chicanent, ils ne sont pas capables de s'endurer. Non, ça ne marche pas. Ces deux-là ensemble, ça ne marche pas partout. Et j'ai l'impression que des fois, on voit ça comme les gens dans l'Église, il faut les endurer. Il faut s'endurer mutuellement. Et ça, c'est le fun, hein, puis endurer du monde. Pas pour vous, là. Moi, ce n'est pas mon sport national. Endurer les autres. Mais si ça ne parle pas d'endurer les autres, ça parle de supporter les autres. Ça veut dire d'être avec, là, avec eux. Et un peu comme dans Matthieu 25, qu'est-ce que ça dit? Quand est-ce qu'on t'a vu nu, qu'on t'a vu affamé, qu'on t'a vu fatigué, qu'on t'a vu en prison, qu'on t'a vu malade? Les disciples vont faire comme, mais voyons, quand est-ce qu'on t'a vu comme ça? Bien, à chaque fois que vous avez vu quelqu'un puis vous en avez pris soin, vous l'avez supporté. Et c'est comme si vous m'avez supporté. Et quand que quand il y a quelqu'un qui arrive dans une situation où il n'est plus capable de prier, c'est notre rôle de le supporter en prière. C'est ça notre rôle. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Et peut-être une bonne chose à un moment donné de dire, je ne sais plus, j'ai fait le tour, je ne sais plus comment prier, quoi prier. C'est peut-être une bonne chose de commencer un journal de prière et d'écrire vos prières pour vous rappeler que en 2023, je vivais telle situation, j'ai prié ça. Puis là, on est en 2033, j'espère que ça va être avant la réponse là, pour vous. Je souhaite, je prie. Un miracle aujourd'hui dans votre vie. Mais de voir ce que Dieu fait et comment il fait. Mais pourquoi moi j'écrirais et ça donnerait quoi? Mais les psaumes, c'est un peu ça. Le psaume 3:1 dit, psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Ben, quand tu lis le psaume 3, puis souvent ça c'est le début des psaumes, on ne lit pas ça. Asaph, David, on s'en fout qu'il ait écrit ça. Mais en fait, la majorité des psaumes, c'est des situations de vie que ces personnes-là, qui, en passant, sont des êtres humains comme vous et moi, pour vrai, et qui ont juste écrit ici, imaginez, Absalom, là, c'est son fils. Imaginez juste un instant que votre enfant vous poursuit pour vous enlever la vie. Ça, c'est du gros bonheur, de l'amour, de la grosse amour. Et là, tu dis, bien voyons, c'est le roi David. Oui, bien c'est ça. Il se retrouve dans cette position-là. Et lui, dans cette position-là, il a décidé d'écrire le psaume 3. Vous pourrez le lire pour vous-même. Mais il a décidé d'écrire sa prière parce que là, ça ne marchait pas dans sa vie. Ça ne fonctionnait pas, là. Puis pourquoi je me retrouve dans une situation où mon fils veut m'enlever la vie? Voyons, c'est quoi l'affaire? C'est quoi la joke, là? À ce point-là? Mais peut-être des fois, d'écrire. Et de dire, Seigneur, j'ai plus de mots, mais je vais l'écrire, ce que je vis. Des fois, on est arrêté à, il faut que je prie à haute voix pour que Dieu m'entende. Je vais le dire plus fort, que Dieu voit toutes les formes de prière. Et Dieu l'entend, celle-là aussi, quand tu n'as plus de mots. Quand Dieu ne répond pas, puis que tu vas écrire, Dieu entend cette prière-là aussi. Parce qu'il sait avant même ce que tu vas demander. Le psaume 119, le verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il y a deux choses dans ce passage-là. Tu vois, là, tu parles la parole, la prière. Jean 1, ça dit que Jésus est la parole faite chair. Fait qu'aujourd'hui, quand on prie Jésus, on ne peut pas te faire de distinction entre la parole et Jésus, parce que Jésus est la parole. Et quand on prie, c'est ça, c'est Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds. Il y a pas mal de monde qui ont manqué d'électricité dans le temps des fêtes, right? J'en fais partie. C'est un peu comme stressant, puis là, surtout que là, tu, à cette heure, avant, tu ne pouvais pas, mais à cette heure, tu vas voir sur le site d'Hydro-Québec, puis là, ils disent que c'est, ça va reprendre peut-être d'ici le 31 décembre 2023. Mais c'est pour ça que ce soit un an, pas de courant. Fait que là, tu stresses, tu paniques, puis là, l'électricité, le chauffage, le ci, le ça. Mais imaginez quand tu es dans la noirceur comme ça. Ça dit une lampe à mes pieds. Imaginez-vous, vous avez une lampe de chevet. Mettez ça à vos pieds ce soir-là. Mettez une lampe à vos pieds. Qu'est-ce que ça éclaire? Ça éclaire pas loin, là. Ça éclaire où t'es. Ça veut dire que des fois, Dieu n'éclaire pas plus que ça. C'est-à-dire que si tu fais un pas de plus, tu es dans la noirceur. Puis Dieu va juste mettre la lumière là, puis va dire, ben là, t'es rendu là. Un pas à la fois. Tout ce qui va éclairer, c'est un pas à la fois, puis il ne te donnera pas les 10 pas en avant. Tu sais des fois comment Dieu éclaire. Mais il y a l'autre bout. Et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que des fois, c'est une lumière sur mon sentier. Fait que tout ce que tu vois, tu es dans la noirceur, puis là, tu vois un corridor de lumière. Fait que tu sais où tu t'en vas. Fait que des fois, Dieu met une lumière sur ton sentier, mais des fois, Dieu fait juste mettre une lumière à tes pieds. Ça dépend des moments. Ça dépend comment il feel. Moi, si j'étais Dieu, ça serait lumière sur mon sentier à côté. Là. Oublie la lampe à mes pieds. Je ne pense pas qu'il y a personne qui est à l'aise avec la lampe à mes pieds. Mais qui suis-je pour dire à Dieu comment et quoi faire? C'est ça le point. Je termine avec cette citation de Mère Teresa qui dit « Prier, ce n'est pas demander. » Prier, c'est déposer sa vie dans les mains de Dieu, à sa disposition, et écouter sa voix au plus profond de notre cœur. Parce que souvent, on s'arrête à... On a notre liste de prières, on a les choses qu'on veut. Un peu comme quand on va voir le Père Noël, quand on est jeune. Le Père Noël dit, « Qu'est-ce que tu veux, Père Noël? As-tu été assez sage? » Puis là, on pense que Jésus, c'est la même affaire. Il dit, « Qu'est-ce que tu veux comme bénédiction? As-tu été assez spirituel? » Ça ne marche pas comme ça. Et j'aime l'idée de cette femme qui nous dit que de déposer, c'est un peu comme de notre Père. C'est ça que ça nous dit. Que ta volonté soit faite. Dépose ta vie. Et dans la il n'y a pas tant de foule de requêtes dans la prière de Jésus du Notre Père. Mais c'est la prière qu'il nous a donné de faire. Quand ça va bien, quand ça ne va pas bien, quand il répond, quand il ne répond pas. Est-ce qu'il va répondre? Un jour, il va répondre. Et tant mieux pour toi si aujourd'hui, cette semaine, tu as eu un miracle. Ben oui, Dieu fait encore des miracles. Dieu agit encore. Dieu ouvre des portes. Dieu met de la lumière sur mon sentier. Mais peut-être que tu es la personne qui se trouve ici et qui se dit, cette prière-là, ça fait des années que je prie et il ne s'est rien passé encore. Moi, je suis loin de te dire, ben voici ce que tu n'as pas fait dans ta vie, c'est la raison où tu n'es pas assez spirituel. Il faudrait que tu viennes à l'église plus souvent. Est-ce que tu lis vraiment ta Bible tous les jours? Combien de temps par jour tu pries? Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. La seule chose que je sais, c'est que Dieu sait et Dieu connaît. Dépose ta vie à ses pieds. On va terminer juste avec une prière. On va chanter ce chant qui dit « Mon espoir est en toi ». Ce matin, on va prier. Il y a un homme qui est venu me voir. Il a des problèmes avec des problèmes de consommation. Il a besoin justement de support, de soutien. Et je lui ai promis que ce matin, on allait prier pour lui. On va baisser nos têtes. On va fermer nos yeux. Seigneur, viens devant toi ce matin. Peu importe ce qu'on vit. On est reconnaissant ce matin si on est dans la bénédiction, si on te voit agir, si on voit ta main puissante, si on voit tes miracles, si on est dans la bénédiction, merci. Mais peut-être qu'on est comme cet homme, comme Marc, Seigneur, qui a besoin d'une libération, a besoin d'une délivrance, a besoin d'une vie nouvelle, que tu puisses intervenir dans sa vie, Seigneur. Que tu le libères, tu brises ses chaînes, Seigneur, tu lui redonnes une nouvelle vie, une nouvelle espérance qui est en toi. Et pour toutes ces personnes qui, pour différentes raisons, différentes prières, différentes situations, différentes problématiques, on te prie, mais on n'a pas la réponse qu'on aimerait avoir escomptée. Et peut-être que certaines personnes sont aujourd'hui sont fatiguées, sont épuisées de prier. Ce matin, Seigneur, on veut juste prier pour ces personnes-là, les soutenir en prière. Et tu connais chacun des besoins, Seigneur. Tu connais le fond des cœurs, tu connais le cri, tu connais peut-être le désespoir, tu connais la frustration, tu connais la colère, tu connais la tristesse, tu connais la peine, Seigneur. Et on te prie ce matin que tu viennes intervenir dans la vie de chacun. Et juste rappeler que tu connais, tu sais, tu es là. Dans le nom de Jésus.